francesinter.com.
Ça se reconnaît un écologiste.
Les quotas de thon rouge.
Les OGM aujourd'hui ne servent à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 50.
Denis Chessoux.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission CO2 Mon Amour qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie. Une émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite avec à la technique aujourd'hui à la fête de l'Huma, Benoît Gégou et Mathieu Leroy et assisté de Stéphane Combe, c'est Fabrice Laigle qui réalise l'émission. Et bien sûr, on va débuter par une petite humeur. Alors cet après-midi, en fait, nous avons été délocalisés par mon directeur à la fête de l'humanité pour notre plus grand plaisir. Changer d'air, quitter le 16e arrondissement, ça vous fera du bien, bande d'écolo, nous a-t-il dit. Et faut dire qu'après donc l'opération du 11 septembre à New York la semaine dernière, eh ben, il fallait ramener quand même le taux de CO2 de France Inter qui a un peu explosé en dessous de la ligne de flottaison. Aussi, en bon petit soldat adepte de la sobriété festive, un ticket de métro, le tram, le T1, station La Courneuve, la navette et hop, sur place, un kebab végétarien pour déjeuner et La Courneuve, nous voilà. Alors vous allez vous dire, sommes-nous là pour analyser le cycle de vie du cornet de frites, de la canette de bière ou de moule? Non, là, pardonnez-moi, je me suis trompé parce que ça, c'est la Grande Braderie il y a 2 semaines à Lille. Mais en fait, j'en suis peut-être pas si loin que ça, avec échanges culturels, musique, conférences à fond en plus et écologie à tous les étages. Bon, alors là, comment dire de ce côté-là? Dans les allées, nous avons en fait croisé Lénine, Marchais, Karl Marx, Maurice Thorez, donc que des grands écologistes convaincus qui venaient se faire dédicacer le livre d'André Chassaigne. Et oui, donc député du Puy-de-Dôme qui sera mon premier invité. Je plaisante naturellement. Alors, certains m'objecteront que Parti communiste et écologiste, ça relève un peu de l'oxymore. Je replaisante, André. Oui, bien sûr. Je peux affirmer en tout cas que humanité est un mot qui est chaleureux. Et Pierre Rabhi, ancien ouvrier, agroécologiste qui redonne de la vie aux terres pauvres, à la double culture africaine et occidentale, eh bien, nous rappelle joliment que humus, humilité, humanisme ont la même racine. Alors nous, on est un petit peu, vous savez, ces terres pauvres en quête de sens. Alors ici, on discute, on défait, on refait le monde, on se tient chaud sans effet de serre. 7 milliards quand même aujourd'hui, 9 milliards en 2050, c'est vertigineux, que faire? Mon autre invité, Michel Griffon, avec son ouvrage « Pour un monde viable », nous en parlera. Mais nous, on le fait quand même façon festive, on l'a bien dit. Bière brassée, merguez pour la solidarité culturelle Nord-Sud, flûte de pan pour les latinos opprimés, frites pour l'unité de la Belgique et quand même John Baez sur la grande scène, grande amoureuse de la terre et dénonciatrice autrefois de la guerre du Vietnam avec son agent orange défoliant incorporé. Aujourd'hui, elle nous dit qu'on n'a qu'une seule terre, qu'il est temps les petits gars de faire quelque chose et de pratiquer l'amour renouvelable. Alors on discute, on essaie de trouver donc une autre direction, une aube nouvelle. Jouer collectif, cela devrait être un des piliers sociaux du développement durable. Aujourd'hui, alors au Parti communiste, est-ce qu'il n'y aurait pas dans les tiroirs un talent tel qu'Aragon, hein, qui appellerait au dépassement des clivages politiques par une merveille comme la rose et le réséda, souvenez-vous, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle, prisonnière des soldats. De Bretagne ou du Jura et de Framboise ou Mirabelle, le grillon rechantera. Dites flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda. Et pourtant, ça pourrait le faire, hein, car socialement, écologiquement, les deux étant mariés, il y a un petit peu urgence comme en 1940. Cher public, bonjour à tous.
Mais c'est bien votre histoire d'environnement, là, continuellement environné.
Ah ben, vu qu'on vous suit, vous savez, on est prêt à vous pousser au derrière.
Hein. Vive l'environnement, allez-y,
oui, hop, allez, hop là.
CO2, mon amour, Denis Chessoux.
Oh,
Choisi par notre groupe programmateur Jean-Baptiste Audibert, c'était Mamani Keïta, Sinikan, donc nos amis maliens. Il y a aussi donc le Mali qui est représenté ici dans cette fête de l'humanité, mes deux invités, vous l'avez compris, à la fois Michel Griffon, donc chercheur avec cet ouvrage Pour un monde viable, changement global et viabilité planétaire. On lui demandera donc que signifient donc ces différents mots. Et puis André Chassaigne qui est avec nous, avec aussi un ouvrage qui s'appelle donc Pour une terre commune aux éditions Arcane 17. Député maire communiste du Puy-de-Dôme, de Saint-Amand-Roche-Savine, 530 habitants. Si vous connaissez la région du Livradois-Forez, avec, on va dire, Ambert, avec Thiers, eh bien, vous avez l'homme de la situation qui n'est pas venu avec un couteau entre les dents, pas du tout. Sauf si, éventuellement, si c'est André Chassaigne, un couteau de Thiers. Ça, pourquoi pas, mais dans la poche, vous l'avez. Hein.
Un couteau de Thiers, et si possible, un Thiers, puisque c'est sa nouvelle fabrication locale, garantie made in France et made in Thiers.
Voilà. Et donc, vous êtes un enfant d'une cité ouvrière, donc vivant à la campagne, au milieu de la nature. Et au début, vous n'êtes pas vraiment plongé dans cette nature. Et je dirais que vous aviez effectivement, comme beaucoup de personnes, une vision cloisonnée des enjeux de développement humain. Pour vous, le progrès traçait donc une autoroute qui était sans fin. Est-ce qu'on peut dire que c'était, on va dire, un communisme culturellement productiviste quoi, à l'époque ?
Oui, je crois qu'on avait dans notre approche de la question politique une priorité pour le social. C'était, on pourrait presque dire, une marque de fabrique. Et je crois que pendant très longtemps, on a insuffisamment pris en compte les questions de la protection de la planète et le fait que les coups portés contre la planète, les questions environnementales, touchent directement le quotidien des individus. Et je crois qu'aujourd'hui, petit à petit, s'est construit cette conviction que défendre la planète, porter les grandes questions environnementales d'aujourd'hui, ce n'est pas en opposition avec les questions sociales et le mieux vivre. Au contraire, je crois que ça conditionne véritablement l'évolution de la société, le mieux vivre.
Alors ça, on y reviendra avec quelques exemples, mais votre révélation, entre guillemets, c'est arrivé quand ? Comment ça s'est passé ?
Alors tout d'abord, c'est vrai que vivant dans une cité ouvrière, les fameuses cités Michelin de Clermont-Ferrand, j'avais une connaissance par l'éducation populaire, les centres de vacances en particulier, de ce que pouvait représenter la nature. Et quand à l'âge de 22 ans, je me suis installé dans le petit village de Saint-Amand-Roche-Savine comme professeur de collège, j'ai vécu au milieu de cette population rurale et des agriculteurs, et petit à petit, j'ai compris cette interpénétration entre l'activité humaine et la nature. Mais surtout pour moi, on peut dire le choc, forme de presque de rupture culturelle. C'est quand t'es arrivé à l'Assemblée nationale, à la suite, j'ai été élu député en 2002. Quand t'es arrivé à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur les OGM.
Alors là, vous êtes fait connaître, hein, parce que, bon, vous connaissez pas forcément, vous êtes l'auteur d'un amendement qui permet en fait de restreindre la culture des OGM dans les régions sous label de qualité, parce que
c'est ça. Hein,
c'était compliqué sinon. Donc,
C'était compliqué, mais dans un premier temps, avant que je me plonge véritablement dans ces questions des OGM que j'échange avec les organisations agricoles, avec les associations défense de l'environnement, que dans une démarche très citoyenne, très large, j'étais dans un premier temps plutôt favorable aux OGM. Oui. Justement dans cette approche du développement scientifique pour résoudre la question de l'alimentation mondiale, par exemple. Et j'ai compris très très rapidement que cette question des plantes génétiquement modifiées pouvait avoir des conséquences extrêmement graves sur l'évolution végétale, pouvant avoir y compris des conséquences, même si scientifiquement encore les choses sont en recherche, peut-être sur la santé humaine, et aussi, mais j'étais déjà convaincu, les conséquences sur le développement économique. Et donc à partir de là, je crois que j'ai beaucoup évolué, et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas, prendre le résultat d'une découverte scientifique aussi flamboyante soit-elle, on ne peut pas la prendre en tant que telle, en considérant que ça apportera un mieux et une forme de bonheur à l'humanité. Il faut confronter ces découvertes, les impacts que ça peut avoir, l'utilité que ça peut avoir, et ça on ne peut le faire que dans un bouillonnement démocratique, en échangeant, en essayant de construire et de mieux comprendre.
Alors André Chassaigne, on imagine bien que du côté de l'Imagrin, dans le Puy-de-Dôme, vous n'êtes pas forcément fait des copains. Michel Griffon donc est à vos côtés, d'abord scientifique, chercheur, aujourd'hui président du Fonds français pour l'environnement mondial, conseiller scientifique aussi à l'Agence nationale de la recherche, agronome, économiste, un homme tout à fait pragmatique avec cet ouvrage. Alors, je ne vais pas vous lancer directement sur les OGM, mais c'est vrai que ça nous fait un peu une liaison, quoi. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cœur de votre bouquin. Vous en parlez aussi. Où est-ce qu'on en est de ce côté-là pour vous?
Oh, il y a beaucoup d'évolutions du côté scientifique, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut que les sociétés contrôlent la marche de la science et de la technologie. Alors sur les OGM, il y a d'abord le fait que c'est un monopole de firmes. Et ça, c'est pas une bonne chose. Ensuite, il y a des questions purement éthiques. Il y a des gens qui considèrent qu'on n'a pas le droit de modifier la nature, d'autres qui considèrent que c'est légitime. Comme toute question d'éthique, il faut en débattre. Il y a des situations limites qui peuvent être intéressantes. Et puis, en fait, je dirais que moi, je ne parle pas des OGM en général. J'essaye de voir chaque OGM au cas par cas. Il y a des OGM qui n'ont jamais existé, Dieu merci, et qui étaient potentiellement des catastrophes. Il y en a d'autres. Par exemple, on a sauvé les papayes aux États-Unis contre un virus qui aurait fait disparaître les papayes de l'ensemble de la Terre, simplement parce qu'on a inventé un OGM résistant au virus. C'était la seule solution technique qui était disponible. Eh bien, dans ce cas limite, dans ce cas-là, oui, je suis d'accord pour un OGM. Donc, comme tout scientifique, je demande à voir au cas par cas.
Bien. Michel Griffon, pour un monde viable. Là, c'est tout à fait intéressant parce que dans votre ouvrage, vous dites que le développement durable n'est pas, loin s'en faut, aujourd'hui, donc à la hauteur des enjeux qui se profilent. Pour vous, la viabilité, c'est son prolongement. Donc dites-nous ce qu'est ce mot de viabilité pour vous, aujourd'hui, dans notre société mondiale.
Avant viabilité, il y a le mot changement global qui veut dire que c'est global au sens de la planète. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer dans le plan économique, au plan social, au plan environnemental, au plan écologique, et en fait tout est lié. Et alors ce changement global, c'est le fait que tout ça va dans un sens qui est détestable. Alors on peut parler de développement durable dans ce contexte-là, mais ça devient de plus en plus angélique. Et donc avant de penser à un avenir radieux du point de vue planétaire, il faut garantir une chose, c'est que notre planète et nos sociétés vont bien rester viables. Mmh. Viables, c'est-à-dire qu'on renouvelle les choses que l'on consomme, que l'on résiste aux chocs, et on est en train de se demander si on est bien capable de résister à un certain nombre de chocs économiques qu'on a créés nous-mêmes. Et puis on a aussi, il faut qu'on ait une capacité de réparation pour faire face à des chocs qui soient supérieurs aux chocs qu'on peut imaginer aujourd'hui. Donc la viabilité, c'est d'abord, il faut rendre hommage à Jean-Pierre Aubin qui est un professeur de mathématiques et surtout un philosophe, qui est l'inventeur de la théorie de la viabilité, une théorie française, et qui nous dit que tout système a des limites. Eh bien, notre planète a des limites et il faut que la gestion de toutes les choses de la planète soit contenue à l'intérieur de nos limites.
Est-ce que c'est dans le cortex humain de se dire « j'ai des limites » ? On a le sentiment que dans ce monde merveilleusement de dingue, que ce n'est pas le cas. Et en plus, vous rappelez justement qu'on a découpé en fait les savoirs et les domaines sans les relier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est sur plein de disciplines, mais sans forcément cette globalité systémique.
Oui, il se crée des disciplines scientifiques en permanence. Elles sont de plus en plus pointues, elles sont de plus en plus avancées. Et il y a de moins en moins de gens qui sont capables d'en faire la synthèse. Donc, parler de changement global, c'est cette tentative un peu folle de faire la synthèse entre des connaissances de plus en plus variées, de plus en plus diversifiées.
Donc il y a une interaction, on le sait, entre les individus, une interaction dans la nature, entre les différents écosystèmes, et puis aussi donc, entre ces différents, je veux dire, savoirs que vous mettez donc, un petit peu sur la table. Alors je ne sais pas, peut-être déjà réaction André Chassaigne donc, par rapport à tout cela.
J'ai une première réaction. Pour ma part, je ne peux pas imaginer une viabilité, et je dirais une planète qui continue à être avec des habitants dans le cadre du système qui est le système capitaliste. Alors vous allez dire, c'est facile de dire ça à la fête de l'UMA, mais je le dis parce que véritablement, je suis persuadé qu'il y a une incompatibilité entre le fait de vouloir régler les questions environnementales, la protection de la planète et le système capitaliste. Alors pour être très très court, par définition même, le capitalisme, dans son mécanisme financier, est sur le court terme, sur la rentabilité, sur le retour sur investissement. Or, la nature, et je dirais aussi la nature humaine, la nature plus largement, et les hommes, sont sur le long terme. Et donc, il y a une forme d'incompatibilité. Si on ne remet pas en cause le système capitaliste dans son fonctionnement habituel, on ne réglera pas les questions de protection de l'environnement.
Qu'est-ce que c'est la différence entre... Voilà. André Chassaigne, quelle différence y a entre les Verts et vous ?
Je crois que la différence, est-ce que c'est à moi de le dire, mais le constat que je fais, c'est que cette prise de position très forte que j'ai sur une politique de transformation sociale, de radicalité, comme étant une condition pour régler les questions environnementales, je ne retrouve pas systématiquement cette prise de position aussi clairement, aussi nettement que je peux l'affirmer dans les discours qui sont tenus par nos partenaires verts. Peut-être chez certains, mais de façon beaucoup plus diluée et, je dirais, inconstante. Et à partir de là, je crois qu'il peut y avoir une forme d'illusion.
Alors, on a encore pas mal de sujets sur la table. Si je vous dis Manu Chao, vous êtes d'accord ici à la fête de l'UMA, ça vous va très bien. Eh bien, nous aussi sur France Inter. Allez, Manu Chao, c'est parti.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Qu'est-ce que tu veux de moi? Quelque chose à prendre sur ta vie. des choses à inventer. Qu'est-ce que tu veux de moi? Des choses à ridicule. Qu'est-ce que tu veux de moi? Por tu amor, por tu amor. Todo lo daría. Qu'est-ce que tu veux de moi? Por tu amor, por tu amor. Todo lo daría. Des choses à ridicule.
Où CO2 mon amour passe, la pollution trépasse. Et allez.
CO2 mon amour.
Oui,
Denis Chessou.
Et en général, elle ajoute et on peut rêver, non? Bah oui, c'est ça. Mais pourquoi pas? De temps en temps, un petit peu de méthode couille. Non, on n'y croit pas vraiment, mais c'est pas grave. Nous sommes avec André Chassaigne et Michel Griffon, donc aujourd'hui dans cette fête de l'humanité. Donc nous sommes à La Courneuve, vous l'avez très bien compris. Et alors peut-être petite anecdote, vous me disiez André Chassaigne avec Emmanuel Chao, que vous avez.
Ah, je veux bien. Oui. Puisque c'est tout à fait lié aux questions environnementales. Il y a à peu près une vingtaine d'années, dans mon petit village de 530 habitants, oui, nous avons accueilli la Mano Negra.
Saint-Amand-Roche-Chavine.
Hein, alors un succès incroyable, 15 000 personnes, le village complètement envahi. Oui. Nous nous réveillons le dimanche matin, le village jonché de canettes de pierre.
Bah oui.
De bière.
Oui, oui.
Jonché. Et puis là, on avait un petit camion du syndicat intercommunal pour ramasser les canettes de bière. Je me trouve tout seul, comme on dit chez nous, pas au cul de la vache, mais au cul du camion. Mais je me dis, comment on va faire pour récupérer toutes ces canettes de bière? Et la Manu Chao était en train de boire un café sur la terrasse du bar du village. Je vais vers lui. Je dis, hier, tu m'as fait slammer sur la scène. Bon, aujourd'hui, tu vas me rendre un service. Mmh. Tu vas venir avec moi. Et tous les deux, on va se mettre à ramasser des canettes de bière. Donc, Manu Chao m'a suivi. On a commencé à ramasser quelques canettes de bière, et là, on s'est trouvé avec 150 festivaliers qui nous ont suivis. Et donc, c'est une démonstration pour montrer que les questions environnementales, c'est pas forcément réglé par des textes législatifs, mais il y a des petits hasards de la vie qui font qu'on peut avoir des solutions aussi de ce genre.
Voilà, c'est très bien. Et maintenant, ça s'appelle la fête de la bière, donc à Saint-Amand-Roche-Chavine. C'est comme ça. Michel Griffon, alors sur la bière, on va peut-être passer très très vite. En revanche, quand même, un thème central de votre ouvrage, c'est la variable justement qui est au centre, c'est la démographie. Je le disais donc tout à l'heure. Vous devez partir, André Chassaigne?
Dans
3 minutes seulement. Ah oui, d'accord. Bah, vous restez un petit peu quand même avec nous. Démographie, donc variable centrale. On le disait, 7 milliards sur ce caillou bleu en 2012 et puis 9 milliards en 2050. Bien. On rajoute que maintenant la moitié de l'humanité est urbaine. Qu'est-ce que l'on fait avec tout cela?
D'abord, on comprend les choses. On voit où se trouve cette population. D'abord, les 2 milliards ou 2 milliards de plus, ils vont être dans les pays qu'on appelle les pays en développement. Donc, c'est eux qui vont porter la charge. Ensuite, il y a des choses singulières qu'on ne dit pas souvent. Prenons le cas de l'Afrique. Il y a des zones à très forte densité de population, il y a des zones à très faible densité de population. Et donc, vraisemblablement, l'adéquation entre les moyens d'existence et la population, ça va se traduire par des migrations internes. Et ça, c'est un problème considérable qu'il faut anticiper, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des migrations en Afrique, il y a eu des conflits pour la terre. On peut expliquer, par exemple, en grande partie le conflit de la Côte d'Ivoire par la descente des gens du Sahel vers le sud, qui est bien sûr plus fertile. Donc cette question démographique se décline en de très nombreux aspects. Et puis, alors, on a l'habitude de dire, de poser ce qu'on appelle la question malthusienne. Vous savez, Malthus, au XVIIIe siècle, disait au banquet de l'humanité, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et au fond, laissons mourir les gens qui ne peuvent pas avoir de place au banquet de l'humanité. Et on repose maintenant cette question à l'échelle de la planète. Mais cette question un peu joue le rôle d'écran. Il y aura à manger pour tout le monde. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement encore aujourd'hui comment on va y arriver.
Et
il y aura des périodes d'excédent, il y aura des périodes de déficit, des périodes de prix élevés, des périodes de prix bas. Mais ça, c'est un aspect de la chose, l'aspect malthusien. La démographie est une science sur laquelle il faut investir beaucoup pour comprendre. Alors, le grand rendez-vous, c'est 2050, parce que c'est théoriquement le plafonnement, mais on en est un peu moins sûr. Moi, je ne suis pas démographe. Et le dernier travaux des Nations Unies commence à s'inquiéter en disant qu'on pourrait dépasser 9,5 milliards, et après 2050, c'est la grande inconnue.
Alors André Chassaigne, vous aurez 5 minutes de retard, mais restez quand même un tout petit peu avec nous. Vous dites quand même dans votre ouvrage que le capitalisme a engagé sa révolution verte et vertueuse pour sauver la planète. C'est désormais aux hommes de faire leur révolution culturelle pour leur propre bien et celui de leurs enfants. Et là, vous dites que c'est quand même un tour de passe-passe, que c'est un piège qui a été tendu et à la limite qui a été même le fondement du Grenelle de l'environnement.
Oui, parce que je crois qu'on fait semblant d'apporter des solutions. Je prends l'exemple, c'est gravissime, le réchauffement climatique. C'est gravissime. On peut dire ce qu'on veut, s'il y aura des conséquences en particulier sur les pays du Sud qu'on ne mesure pas. C'est par exemple en 2050, 350 à 400 millions de réfugiés climatiques. Donc il faut prendre cette affaire à bras-le-corps, mais comme cette affaire du réchauffement...
Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont forcément déferler en Occident.
Bien sûr, c'est, voilà. Mais comme il y a des déplacements de population, effectivement, mais comme cette affaire du réchauffement climatique touche au Grisby, à l'intérêt financier des grands groupes, on abandonne actuellement, au niveau international, on abandonne cette priorité. Moi, je crois que c'est extrêmement grave. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut tout voir avec une approche de mondialisation, contrairement à ce que certains disent. Parce que la question, par exemple, un dernier exemple, avant que j'aille à mon débat qui a dû commencer à 14h15.
Oui.
Un dernier exemple, les biocarburants. Pour se donner bonne conscience, l'Union européenne se fixe un objectif d'incorporer 10% de biocarburants dans notre carburant, soi-disant par rapport au réchauffement climatique, à l'émanation de gaz à effet de serre. Mais ça me met dans une colère terrible, c'est pour ça que je vais partir là, mais ça me met dans une colère absolument terrible, parce qu'on sait très bien que ces biocarburants, plus de la moitié, seront importés de pays intertropicaux, en particulier d'Amérique du Sud, avec la suppression de la forêt amazonienne, avec la suppression de communautés villageoises, avec des problèmes sur l'agriculture vivrière, et nous, parce que ça arrange le capitalisme, il faudrait qu'on se donne bonne conscience en disant on met des biocarburants, sans prendre en compte les problèmes que ça pose là où on les produit.
Que l'on va appeler des agrocarburants, vous me semblez parfaitement au point, André Chassaigne, sur ce sujet. On vous laisse, et puis on va continuer avec Michel Griffon, mais je vous en prie. Voilà, donc, et puis bon débat, hein, vous serez là-dessus. Prenez votre petit cadeau de Radio France et de France Inter, c'est très bien. Ça peut, voilà, c'est comme il dit, je suis un Auvergnat, donc il est ravi, et pendant ce temps-là, il signe, il dédicace son bouquin. Donc André Chassaigne, donc toujours avec Michel Griffon. Alors nous sommes effectivement sur cette démographie dont vous venez de parler, ce qui veut dire aussi, alors derrière tout cela, si on veut laisser une planète en état de marche, ça débouche en fait obligatoirement sur le niveau de bien-être des générations actuelles, donc sur nous. Et ça, on en parle, enfin, vous en parlez dans votre livre, mais on en parle très peu. On est sans arrêt en train de se dire, il y a les générations donc futures, mais ça paraît quand même extrêmement abstrait pour beaucoup de personnes. Et avec toujours le côté, bah oui, mais enfin, ils se débrouilleront bien, nous-mêmes, on sait débrouiller. Mais ça veut dire que ce niveau de bien-être des générations actuelles, qu'est-ce que ça peut être pour que les gens prennent conscience de cette affaire-là ?
Ben, c'est une question clé, parce que notre planète est en train de se rétrécir, de se resserrer. Et ça va très vite, il y a une accélération. La démographie, c'est une courbe en S, donc on est en train de monter encore très rapidement. Et donc le partage se pose au moins de deux façons. Il se partage au sein d'une même génération, pour simplifier, entre les riches et les pauvres. Et il se partage entre les deux ou trois générations qui sont concernées par l'avenir. Et notre génération actuelle, moi je suis la génération qui arrive en retraite, Eh bien, nous sommes une génération de plus en plus nombreuse, vieillissante. C'est d'ailleurs pour ça que le dialogue intergénérationnel, nous l'avons pratiqué dans le livre, puisque nous l'avons fait à deux, mon fils
avec
et moi.
Avec votre fils, bien sûr, Florent Griffon. Voilà. Oui, oui.
Et des soirées à discuter, c'était inévitable que nous l'écrivions ensemble. Et donc, c'est un signal. La solidarité intergénérationnelle, c'est que nos sociétés apprennent à partager avec les générations futures. Mais nos institutions, je pense au Sénat, par exemple, le Sénat qui est vieillissant, lui aussi, le Sénat devrait se transformer en une institution de vérification que toutes les lois sont bien des lois qui ne lèsent pas les générations futures. Et ça serait à commencer par notre pays.
Vous abordez aussi un autre sujet, celui de la consommation. Alors la consommation, c'est un sujet bien évidemment extrêmement subjectif parce que ça va du minimum vital pour celles et ceux qui ne savent pas forcément s'ils vont vivre demain, jusqu'au gâchis de nourriture occidentale qui est de l'ordre de 30%, en passant évidemment par d'autres éléments. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Parce que tentative de régulation, bah, que la finance, ça ne marche pas. Est-ce que ça peut marcher aussi que la consommation? Je ne vois pas très bien comment on peut faire. Quel est un peu l'état de vos réflexions?
C'est une affaire extrêmement difficile, très compliquée. Il n'y a rien de moins que... une sorte de consommation guidée par le toujours plus, comme disait François de Cloisey autrefois. Et non seulement plus, toujours plus, mais c'est infini. Il n'y a pas de finitude au désir. Il suffit que les entreprises soient capables de produire des biens nouveaux et d'exciter le consommateur pour que ça crée un nouveau marché. Mais derrière ça, il y a des limites planétaires. Il y a des limites... Il y a bien sûr une limite au mur. Il y a un mur des estomacs. On peut pas. Il y a quand même 1 milliard d'obèses à l'échelle de la planète. Il y a 1 milliard de sous-alimentés.
C'est ça.
Donc il y a quand même une limite supérieure. Mais en attendant, manger par exemple plus de viande, comme ça se fait au fur et à mesure que nous améliorons notre bien-être, comme vous disiez, eh bien, on va vers la catastrophe parce que, comme le disait le maire à côté, on détruit la forêt. On accroît les surfaces pour alimenter. Il y a une chose extraordinaire qui est en train de se produire. On détruit l'Amazonie pour faire du maïs et du soja, que l'on exporte en Chine pour nourrir les porcs, lesquels porcs font la viande qui nourrissent les Chinois, qui, avec des classes moyennes qui sont en train d'augmenter, consomment de plus en plus de viande de porc, font de plus en plus d'infarctus du myocarde, de plus en plus de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires.
Et ceci est excellent.
Donc,
pour
à un
PIB,
côté, l'Amazonie, à l'autre côté, un trou futur de la sécurité sociale chinoise.
Alors, tout ceci fonctionne parce qu'on est aussi sur une énergie qui ne coûte absolument pas cher. Le jour où l'énergie va effectivement exploser davantage, peut-être que l'on relocalisera quand même et qu'on arrêtera de faire 3 fois le tour de la planète avant de consommer un aliment ou autre chose.
Ben, le changement que l'on doit faire, c'est penser en termes d'énergie. Il y a un livre merveilleux, plusieurs livres d'ailleurs, de M. Jancovici, qui prend l'exemple d'une comparaison de l'énergie en termes d'esclaves romains.
Tout à fait.
Et pour l'agriculture. Et par exemple, l'agriculture nous a permis de nous alimenter copieusement, mais avec des tracteurs. Et regardons la quantité d'énergie comparé en esclave romain qu'il faut pour labourer 1 hectare. Et voyez ce que ça fait à l'échelle de la planète. Et comme on sait maintenant que le labour est une catastrophe écologique, puisque c'est une grande part des émissions de gaz à effet de serre, on se rend compte qu'il va falloir trouver des solutions alternatives et demander à la science d'intervenir.
Michel Griffon, alors là je picore toujours dans votre ouvrage. On va parler tout à l'heure du phénomène aussi urbanistique qui est extrêmement fort, extrêmement développé. Mais j'aimerais que vous nous parliez aussi dans cette confrontation en fait des limites. Vous en avez déjà pas mal parlé, mais que vous nous parliez de la conquête de l'Ouest, parce qu'en fait, je parle bien sûr des États-Unis, et que cette conquête de l'Ouest a permis dans un pays qu'on appelle un pays vide parce qu'il était absolument immense et qu'il l'est toujours, c'est un peu les germes de la consommation un peu sans fin.
Bien, il faut se resituer dans le contexte. Les pays européens au XVIIIe siècle avaient une densité de population extrêmement élevée, avec une pauvreté de plus en plus importante. Rappelez-vous l'histoire du petit poussé. C'est une histoire horrible. C'est les parents qui veulent perdre leurs enfants dans la forêt parce qu'ils ne peuvent pas les alimenter.
Mais tous les contes, ce sont des horreurs, de toute façon. Voilà. C'est très formateur pour tout le monde, mais c'est toujours des horreurs. Oui, je vous en prie.
Bien, une catastrophe malthusienne. Si Malthus, au XVIIIe siècle, a dit qu'il ne pouvait pas nourrir le reste, la totalité du monde, c'était bien pour cette raison. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont migré. Et ils se sont retrouvés devant un pays qu'ils ont considéré comme vide, sauf qu'il y avait des Indiens. Les Indiens sont morts pour différentes raisons, en particulier des raisons d'épidémies transmises par les populations venant d'Europe. Et ils ont eu devant eux un pays sans limite. Et donc, c'était la course à l'accaparement de la terre. Et cette course à l'accaparement de la terre, c'était une course à la frontière, à la nouvelle frontière. Et il y a une idéologie de la frontière qu'on retrouve en permanence dans l'histoire moderne des États-Unis. Et une fois qu'on a atteint les frontières de ce pays, on a cherché d'autres frontières, notamment dans la science et la technologie. Mais c'est ça qu'il faut changer précisément, parce qu'il faut apprendre à vivre dans un monde fini. Il faut apprendre à vivre dans un monde limité. Il faut apprendre à vivre heureux dans un contexte de viabilité et non pas de frontières éternellement à repousser.
C'est pour ça que nous sommes bien dans ce changement de civilisation. Donc pour vous accompagner, ce n'était pas exactement de la musique indienne, mais c'est très bien parce que ce sont donc des percussions qui venaient donc d'Afrique. Et on l'entend, vous êtes à la fête de l'humanité. On va poursuivre ce voyage. On a encore pas mal de choses à se raconter. Thomas Dutronc, il a bien dû venir à la fête de l'humain. Allez, on y va.
CO2 mon amour, Denis Chessou sur France Inter, tous les samedis à partir de 14h.
Demain j'arrêterai, demain je m'y mettrai, je vois rien, je rêve à la fenêtre. Un jour, faudrait que je m'y mette. Mais y'a de la vie tous les soirs, y'a des filles dans les bars. Allez viens, demain sera trop tard, y'a toujours une petite fête. Promis demain j'arrête, mais ce soir la nuit sera sans fin. À l'été, à la vie, au soleil et aux filles, je veux lever mon verre à enrouler par terre. Je rejoins prévu la folie et l'ivresse en chantant dans les rues. J'oublie toutes les promesses. Café en terrasse, je suis bien, je regarde la vie qui passe. Et pourquoi faire aujourd'hui ce que je pourrais faire demain? Vive la vie, comprends comme elle vient. Alors j'appelle mes potes, ça te dirait qu'on sort. C'est ce soir, demain sera trop tard. À l'amour, à la vie, au soleil et aux filles, je veux le. Économie, je prévois le reste de ma vie, mutuelle et petit bas de laine. Mon Dieu, que j'aime le système. Demain sera merveilleux, j'aurai ma maison, je serai heureux, mais je serai vieux, ça c'est ennuyeux. Alors je te les laisse, ma place, mon chien, ma caisse. Résolution, je prends plus de résolution. À l'été, à la vie, au soleil et aux filles, viens donc lever ton verre, renversons les barrières. Demain on sera tous frères, demain y aura plus de guerre, on mangera à sa faim, en attendant je m'en sers un. À l'amour, à la vie, au soleil et aux filles, je veux lever mon verre et rêver.
On a levé son verre ici à la fête de l'humanité, donc c'était demain Thomas Dutronc. Une spectatrice m'apporte un petit mot, simplement effectivement on a parlé des agrocarburants pour être tout à fait précis. Rappeler qu'au Libéria actuellement il y a évidemment beaucoup d'huile de palme et qu'il y a un projet donc d'usine d'huile de palmier à Port-la-Nouvelle, on en avait parlé dans l'Aude. déjà dans cette émission. Nous avons en ligne Frédéric Danhué. Alors Frédéric Danhué est ingénieur en environnement, il est auteur de très nombreux ouvrages, entre autres l'Atlas du changement et du réchauffement climatique. Et Frédéric, vous avez écrit donc aussi un ouvrage aux éditions Grund sur le monde ouvrier que vous connaissez bien. Et peut-on faire, s'il vous plaît, une petite réflexion sur les rapports, on va dire, du monde ouvrier avec l'écologie ?
Oui, bonjour Denis, bonjour chers camarades. Je tiens d'un grand père communiste que camarade du beau mot de la langue française.
Vous êtes originaire du Nord, hein, effectivement.
Je suis originaire du Nord, voilà. Et le monde ouvrier, j'ai baigné dedans. Et alors, les rapports du monde ouvrier à l'écologie, à l'environnement sont ambigus de façon générale. Le monde ouvrier et les syndicats et les partis qui l'ont représenté n'ont jamais tenu compte de l'environnement. Ce qui comptait avant tout, c'est l'emploi, quel qu'il soit. Il n'était pas très viril de faire attention, de respecter les conditions de sécurité. Preuve en est, par exemple, dans le scandale de l'amiante, ce ne sont pas les syndicats qui ont défendu les ouvriers. Il n'y a eu de plainte qu'après la mort des hommes, par les femmes, les filles, les belles-filles, les nièces. Tout est venu par les femmes et pas par le monde ouvrier lui-même. Et puis, le communisme, dans ce qu'il a eu de pire avec le soviétisme, ben finalement, il rejoint le néolibéralisme actuel dans son rapport extrêmement prédateur avec la nature et la négation et des êtres et de l'environnement.
Alors là, André Chassel nous a quand même rappelé que c'était en train d'évoluer quand même, hein, tout ça.
Oui, non, mais tout ça évolue bien entendu, mais la seule différence qui a fait que finalement on a eu un peu plus de lois, de réglementation chez nous, c'est pas lié au fait que le communisme était en soi une catastrophe environnementale, c'est que juste qu'il n'était pas une démocratie dans sa version soviétique. Alors, donc les rapports entre le monde ouvrier et le monde de l'environnement ne vont pas de soi, ils vont d'autant moins de soi que le discours écologique, finalement, il est très culpabilisateur et il renforce l'individualisation de la société qui a fait que les mondes ouvriers ont complètement éclaté. La cohésion sociale des mondes ouvriers, parce qu'il y en a eu plusieurs, a éclaté avec l'individualisation de la société. Et le discours écologique normal, banal, hein, qui nous fait dire qui désigne à chaque fois l'individu comme étant le seul à même de sauver la planète et comme étant le seul responsable, il ne fait que renforcer cette individualisation. Qui plus est sur des classes sociales qui sont déjà archi défavorisées, donc on leur demande d'acheter, on leur demande de se débrouiller tout seul, et en plus on leur demande de sauver la planète. Donc tout ça, ben, fait que le discours écolo passe pas forcément bien, d'autant moins qu'il est pas vraiment social, c'est un discours purement assez abstrait pour certains, et donc l'écologie est assimilée au pouvoir qui ne s'occupe plus du monde ouvrier, des mondes ouvriers depuis belle lurette. Alors c'est quand même dommage parce que les premières victimes des désordres environnementaux, ben, ce seront les gens qui sont dans les classes sociales les plus basses. Pourquoi ? Parce que ben, ceux qui habitent le plus loin, donc pour qui l'essence coûte le plus cher, ceux qui, on le voit hein, dans la diminution de l'espérance de vie, sont confrontés le plus aux polluants, aux aléas naturels, etc. Donc faire de l'écologie, c'est faire du social et c'est dialoguer avec les mondes ouvriers. Donc il y a quand même une coupure qui est assez grave et que je ne m'explique pas que les mouvements écologistes ou que les Verts n'arrivent pas à le combler parce que c'est faire de l'écologie, encore une fois, c'est faire du social et parler aux ouvriers, c'est leur parler d'eux-mêmes et c'est leur parler de leurs problèmes.
Est-ce qu'il n'y a pas, Frédéric Danhué, aussi une contradiction dans le monde écologiste, parce que donc aujourd'hui on parle de relocalisation, mais relocalisation, ça veut dire de nouveau réindustrialisation.
Ah ben complètement. On veut relocaliser, on veut démondialiser, il faut donc remettre des usines chez nous. Mais on veut croire que les usines sont toujours des méchants polluants. Alors c'est pas vrai, enfin, c'est plus vraiment vrai, si j'ose dire. La pollution, c'est avant tout chez nous. Hein. C'est nous qui émettons nos propres polluants dans nos chambres et dans nos maisons. Je ferme la parenthèse. Oui, il va falloir recréer l'outil industriel, ce que les Allemands continuent à faire ainsi que les Américains. Nous, on a complètement oublié. Donc accepter que... voilà, le monde totalement vert, c'est pas un monde sans industrie, sans pollution, sans utilisation de matières premières. Le monde vert, ce sera avant tout aussi un monde de grande industrie avec une classe ouvrière et des cadres ouvriers très très bien formés, très spécialisés. Sinon, cette économie verte qu'on nous promet, qui ne remet pas du tout en cause le système économique, ce sera une économie décidée dans les ateliers et les usines chinoises avec des petites mains françaises. Donc on est en train de créer un prolétariat vert comme on a créé un prolétariat des centres d'appel et des livreurs de pizza. Donc il ne faut jamais oublier cet aspect-là. L'écologie, je le répète, c'est vraiment une science sociale. Concerne au premier chef les plus basses classes sociales, c'est quand même 50% de la population qui en France est ouvrière ou employée. C'est eux qui seront les premiers concernés par l'adaptation de la société au désordre écologique. Et on a une occasion unique là, justement, de tout allier, de faire à la fois de l'environnement et de l'économie en recréant de l'outil industriel. Mais ça se décide pas, ça se décide maintenant, mais c'est des histoires sur 20 à 30 ans.
Eh ben, merci Frédéric Doré de votre analyse depuis le Cantal où vous êtes actuellement. Et puis on vous retrouvera donc bientôt le 1er octobre avec un ouvrage donc qui s'appelle La dictature du carbone. Michel
merci
Griffon,
Denis.
on n'est pas complètement à la fin de cette émission, mais quand même on n'est pas très très loin. Vous évoquez aussi la dégradation des écosystèmes qui est la base de l'existence des sociétés humaines. Hein. C'est pas forcément les résultats du PSG contre Marseille, c'est plutôt les écosystèmes. Vous évoquez aussi la bidonvillisation parce qu'aujourd'hui, à peu près 30% de la population mondiale vit dans des bidonvilles. Que faire ? Et pour le que faire, vous en appelez aussi un philosophe, Alain Cugnot, donc à la fin de votre ouvrage pour créer ce monde nouveau.
Oui, simplement parce que nous étions, mon fils et moi, un peu dans l'impasse pour trouver des solutions, parce que on est très vite dans le yaka et faucon, et puis nous étions arrivés à dire il faut changer au fond d'éthique, et le changement il doit passer dans les têtes de tout le monde. Alors nous avons essayé de définir une éthique de la viabilité.
Il passe aussi par l'acte politique, hein, quand même.
Oui, bien sûr, mais on vote politiquement, mais il faut d'abord avoir fait un travail dans sa tête. Et on a fait appel à un philosophe, Alain Cugnot, et Alain Cugnot nous a fait cette révélation, finalement, qui était sous nos yeux et dont nous n'avions pas pris conscience, qui est que, face à la catastrophe annoncée, il faut d'abord comprendre, connaître, prendre conscience. Et le moment où on prend conscience, c'est un moment où on passe du regard tourné vers le passé au regard tourné vers l'avenir. C'est un moment incroyable de basculement. C'est quand on croit que tout est fini, en fait, que tout recommence. Et au fond, il appelle à considérer, quand on a pris conscience, quand on a la connaissance nécessaire, il nous invite à l'action, à agir, et à considérer que nous sommes au fond face à un monde à construire, un monde nouveau.
Est-il possible d'échapper à son destin ? C'est la grande question. Qu'est-ce qui nous permet de changer aussi ? Comment faire pour tourner la page avant qu'elle ne soit lue ? Alors voilà, donc des éléments de réflexion très intéressants dans cet ouvrage pour un monde viable. Et moi, je vous propose de passer aussi, là, au quotidien, à notre petit agenda.
CO2, mon amour. Denis Chessou sur France Inter, tous les samedis à partir de 14h.
Voilà, donc ça, c'est vraiment d'actualité quotidienne, parce qu'en ce moment, il se passe la fête des Sagnes. Ah, alors la fête des Sagnes, ça va nous emmener dans le département du Tarn, avec un petit éclairage. Céline Thomas, vous êtes la responsable de la coopérative Rhizobiome. Les Sagnes, qu'est-ce que c'est ?
Alors, les Sagnes, ce sont les zones humides. C'est comme ça qu'on les appelle chez nous, dans le Tarn.
Ouais.
C'est tous les milieux naturels dans lesquels il y a de l'eau. Quand on se balade, on a les bottes qui font floc-floc, et tout ce qui est un peu humide, on appelle ça les Sagnes.
Alors c'est évidemment une grande fonction en matière de biodiversité. Et quel est votre rôle ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous essayez de les sauver ? Qu'est-ce que vous faites ?
Nous, on essaye de travailler avec les propriétaires de ces zones humides, de ces Sagnes, pour les accompagner, puis pour trouver avec eux des solutions pour qu'ils puissent utiliser ces Sagnes sans détruire les fonctions écologiques et hydrologiques, surtout.
Alors, ce qui est important, c'est que ce sont des réservoirs d'eau, avant toute chose.
Ce sont des réservoirs d'eau, ce sont des réservoirs de biodiversité, puisqu'il y a des espèces inféodées à ces milieux qui ne vivent que là, par définition. Beaucoup de nos Sagnes sont des tourbières dans la partie Mont de la Cône. Ce sont aussi donc des puits de carbone et des vieilles bibliothèques, puisqu'elles renferment. Ce sont des milieux qui ont plusieurs milliers d'années.
Mmh.
Et donc elles renferment une mémoire de l'histoire des paysages de ces montagnes qui est assez ancienne.
Voilà, donc initiative tout à fait positive dans le département du Tarn. Donc on est à Vabre, dans les monts de la Cône. C'est aujourd'hui pour cette fête des Sagnes. On va aller pas très loin de Bure. Là, c'est à Saint-Bonnet, une autre fête. On est dans le département de la Meuse. Et là, nous avons Michel Marie, qui est le porte-parole du CEDRA, c'est-à-dire le collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs, sujet un petit peu chaud. Michel Marie, vos revendications, qu'est-ce que c'est et pourquoi cette fête ?
Tout simplement parce qu'il se passe quelque chose d'assez, j'allais dire, extraordinaire. On peut plutôt dire important et capital dans ce secteur, puisqu'on envisage, quand je dis on, c'est O et N majuscule, on envisage d'enfouir les pires déchets nucléaires. Et donc avec tout un tas de risques, bien entendu, sur la santé, l'environnement et autres. Et donc nous sommes là, nous, pour empêcher ce projet un peu fou.
Aujourd'hui, nous avons un centre d'enfouissement, on va dire, à vocation scientifique, qui se trouve donc à Bure. Donc on est à la limite de la Haute-Marne et du département de la Meuse. Et ceci risque fortement de devenir, de toute façon, le centre d'enfouissement du futur.
Alors non seulement il risque, mais c'est même programmé, puisque depuis la loi de juin 2006, c'est acté, contrairement à ce qu'on nous avait dit auparavant, il y avait 3 voies de recherche. En fait, maintenant, on ne parle plus que d'enfouissement pour ces déchets dont personne ne sait quoi faire. Donc la pseudo-solution qui a été retenue, c'est de les enfouir profondément, avec tous les risques que ça peut comporter sur la contamination des nappes phréatiques, etc., etc.
Alors certains vont dire que c'est un phénomène NIMBY, c'est-à-dire que vous n'en voulez pas, il y a 7 habitants au kilomètre carré, il y a une population vieillissante, on va dire que c'est presque un terrain béni pour cela. Qu'est-ce qu'on peut répondre ?
On peut répondre ça, effectivement, un terrain béni pour les industriels du nucléaire et les officiels. Le gros inconvénient, c'est que ce secteur-là ne s'y prête absolument pas du tout, puisqu'on a pu découvrir au fil des années qu'il contient des aquifères, et que ces aquifères se dirigeraient une partie vers le nord, donc Belgique, Luxembourg et autres, et une grosse partie surtout vers le bassin parisien. Donc si contamination il y a, elle se dirige vers tous ces secteurs, ces grandes régions, donc c'est absolument une folie.
Que va-t-il se passer ce week-end en gros ? Donc c'est assez festif ce que vous faites, vous faites pas dans le sinistre.
Oui, tout à fait. En fait, on peut être militant en étant joyeux, et c'est le but de la manœuvre, puisqu'on défend en fait des valeurs de vie. C'est pas du tout pour s'opposer à quelque chose, c'est pour conserver tous les atouts qu'on peut avoir dans notre région et ailleurs. Et donc c'est pour ça que c'est un festival avec de la musique, avec des numéros de cirque, de jonglage et autres. Mais également des temps de débat, puisqu'il va y avoir des projections de films, documentaires avec les réalisatrices notamment, et puis un gros débat sur ce qui se passe à Fukushima, sur ce qui se passe à Bure et comment on peut résister essentiellement.
Ça se passe à Bonnet, donc Festival de Bonnet 2011. Toutes les informations sur le site de CO de Mon Amour. Merci Michel-Marie, à bientôt.
Merci beaucoup.
Et enfin, nous allons partir à Gap, dans le département des Hautes-Alpes. On va rejoindre Roland Miller qui nous a laissé un petit message sur le répondeur de CO de Mon Amour au 01 56 40 40 35.
Bonjour Denis, je vous appelle de Gap, dans les Hautes-Alpes, où la colère des habitants gronde. Le maire de Gap veut supprimer le dernier espace vert du centre-ville, le square Henri Dunant, pour y mettre un parking. Un premier marronnier centenaire a été coupé. 10 autres arbres vont également être arrachés sur la place de la République. Le maire veut permettre aux bars d'y installer leur terrasse de café. On a besoin de soutien pour empêcher que ces arbres ne disparaissent. Nous avons créé un collectif de concert avec la Société Alpine de Protection de la Nature. Au plaisir de vous y accueillir.
Voilà, donc notre actualité, notre agenda bien fourni, 01 56 40 40 35. Je vous signale, je recevais Sylvain Tesson la semaine dernière, qui sera l'invité de l'humeur vagabonde de Kathleen Evin. Ce sera donc lundi sur France Inter à 20h. Juste en une petite phrase qui n'est pas très très simple, Michel Griffon, dans cet ouvrage, vous dites, oui, moi je suis pas tellement pour l'apocalypse joyeuse, on prend quand même l'option d'en rire, certes, mais quand même, le déni, c'est pas votre truc du tout, 35% en France de nos concitoyens ne croient pas du tout à ces problèmes aujourd'hui, le syndrome du temple solaire, surtout pas non plus. Juste une petite note positive pour se dire, c'est quoi ? C'est l'insurrection des consciences dont parle Pierre Rabhi, par exemple ?
C'est tout ça définit les conditions idéales pour une renaissance.
Voilà. Donc une fin de civilisation avant de trouver donc une nouvelle renaissance.
Absolument, il faut s'y mettre tous.
Michel Griffon, Florent Griffon pour un monde viable, changement global et viabilité planétaire. Merci donc à tous, à toute l'équipe, à savoir Benoît Gégou et Mathieu Leroy aujourd'hui donc à la technique ici. À la fête de l'humanité, Michel Thomas et Eric Morin qui se trouvent donc à France Inter. Merci à Stéphane Combe, notre assistant, à Fabrice Lègle qui réalisait l'émission, à Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. La semaine prochaine, alors là, c'est ces réponses à vos questions qui sont arrivées sur le répondeur, 01 56 40 40 35. Donc là aussi, une émission différente. Possibilité pour vous de la réécouter pendant 4 semaines et de l'enregistrer, comme on dit en français, de la podcaster pendant une semaine. Je vous retrouve avec plaisir demain 19h54 après les petits bateaux. Ce sera la Tulu, mon petit loup, qui fêtera en 2012 ses 25 ans. Et dans quelques instants, les liaisons heureuses. On va retrouver Colombe Schneck et Valérie Ayestara. Il y a Nancy sur la place. On va y parler de littérature.